Amen, gloire au Seigneur. Un roi qui pardonne. Je pense qu'on ne peut pas saisir pleinement ces vérités avec notre intelligence. Et nous remercions le Seigneur parce que c'est lui qui s'est mis à notre niveau pour nous révéler ces choses. Je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Et nous allons lire du verset 1 au verset 15. Matthieu, chapitre 11, nous lisons « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux, voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je pense que c'est un passage qui peut être compliqué. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous le lisez, que vous l'entendez, mais c'est un passage qui peut nous surprendre, nous faire poser plusieurs questions. Mais c'est un passage où nous voyons aussi Jésus rendre témoignage d'une personne. Et c'est déjà arrivé au courant de la parole où nous voyons Jésus qui est surpris et qui relève chez un homme sa foi, chez telle et telle personne, sa confiance, sa posture, sa démarche. Et à chaque fois, je pense que c'est un enseignement pour nous. Toujours est-il que Jésus, vous l'aurez compris, parle de Jean. Et je pense qu'au travers du témoignage qu'il rend de Jean, quelque part, et peut-être vous l'aurez compris, Jésus rend témoignage de lui-même. Parce qu'il va souligner ce fait, il va rappeler un texte de l'Écriture qui par exemple se situe dans le livre de Malachie au chapitre 3. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. S'il y a un messager pour préparer le chemin, c'est pour quelqu'un. Et au travers de cet épisode, de ce contexte, Jésus rend témoignage de Jean, mais également, encore une fois, prépare la foule, se révèle en disant que si Jean a dit la vérité, c'est parce qu'il devait venir quelqu'un. Et cette personne, on le comprend aisément au travers de l'Écriture, et peut-être d'une manière un peu moins évidente, mais on le comprend que dans ce texte, Jésus veut parler de lui également. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement ce soir, c'est cette phrase, cette question qu'il va poser à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Et c'est une question particulière qui va répéter à trois reprises à la foule. Et bien sûr, s'il y avait la foule, il y avait les disciples. Et je pense qu'au travers de cette question qu'il a posée, ça nous la pose à nous aussi, finalement. On pourrait dire, mais qu'est-ce que nous sommes venus voir ce soir ? Qu'est-ce que nous attendons ? Qu'est-ce que nous attendons de Jésus-Christ ? quels sont les motifs de notre cœur. Et on voit bien que c'est vers cela que Jésus veut amener la foule à considérer réellement. Il veut les confronter aux véritables sentiments qu'ils avaient dans leur cœur. Si, effectivement, en allant voir Jean, ils acquiesçaient dans leur cœur, dans leur âme, qu'il était un envoyé de Dieu, et d'ailleurs, Jésus-Christ, plus tard, va poser cette question aux pharisiens, comme pour dire, mais de qui le baptême de Jean vient-il ? Et les pharisiens, les hommes religieux de l'époque, vont arriver à cette conclusion, mais si on dit qu'il vient de Dieu, on est piégé parce qu'on ne l'a pas écouté. Et si on dit qu'il ne vient pas de Dieu, on est piégé parce que la foule prend cet homme pour un prophète. Et au travers de cela, il y a cette même pensée, c'est que si il reconnaissait que Jean était un envoyé de Dieu, il devait reconnaître que Jésus-Christ était celui dans lequel Jean avait préparé le chemin pour apporter cette bonne nouvelle, pour proclamer, comme nous l'avons lu, voilà, proclamer, dites à Jean que les boîtes marchent, qu'il y a des miracles, que les morts ressuscitent. Et juste pour revenir sur le contexte, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais pour effacer tout doute de notre esprit, Jean est emprisonnier, et alors que c'était un homme de Dieu, il va passer par un moment de doute. Et c'est pour ça qu'il va envoyer ses disciples, mais bien évidemment, il y avait cette assurance dans le cœur de Jean. J'ai relevé trois textes qui m'ont ramené par rapport à celui dont nous venons de faire la lecture. Toujours en filigrane, qu'êtes-vous allé voir au désert? Que sommes-nous allés voir? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qui peut y avoir dans notre cœur? Qu'est-ce qui est la motivation de notre âme lorsque, par exemple, nous venons à l'église, lorsque nous entendons parler de Dieu? Quelle est la motivation qu'il y a dans notre cœur lorsque nous ouvrons la parole de Dieu? Est-ce que c'est pour le découvrir? Ou, comme je l'ai noté dans mon premier point, alors bien sûr, on aurait pu trouver d'autres textes, mais je me suis arrêté sur celui-ci. Premier point, je l'ai intitulé « Zachée » ou « La valeur de notre rencontre avec Jésus-Christ ». Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent. Un roseau agité par le vent. Et même s'il y a un enseignement profond par rapport à Jean, je pense qu'il y a, nous, de notre part, de notre côté, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous sommes confrontés à cette question, ça nous renvoie à notre propre appréciation des circonstances et notre propre appréciation de Jésus-Christ. Et je vais m'expliquer. On peut lire ensemble, on va faire une lecture assez courte, c'est dans Luc, au chapitre 19, on va lire les quatre premiers versets. C'est l'histoire de Zachée. Si vous l'avez jamais lu, je vous encourage à la lire. Nous lisons, « Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir, et c'est ça qui nous intéresse, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Amen, on va s'arrêter là, la lecture. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est la manière dont va réagir Zachée, mais au travers de sa manière, je pense que c'est un questionnement qu'on peut avoir nous. Tout d'abord, j'aimerais dire que ce que va faire Zachée, sa démarche est excellente. On ne doit pas y revenir. C'est sûr que chercher à voir qui est Jésus, c'est excellent. Et on doit le faire, on doit sans cesse avoir cette démarche dans notre vie pour apprendre à le connaître. Mais au travers du premier texte que nous avons lu, et j'insiste pour que nous puissions avoir cette même pensée, qu'êtes-vous allé voir au désert, reste en filigrane dans notre pensée. Le problème peut se poser dans notre vie lorsque nous nous arrêtons à ce niveau-là. Lorsque nous cherchons à voir Jésus sans que ça puisse aller plus loin. Parce que c'est ça la valeur que nous donnons à notre rencontre avec Jésus-Christ. Est-ce que nous considérons notre rencontre, est-ce que nous considérons Jésus-Christ au même niveau, si je puis dire, d'un roseau agité par le vent? Un roseau, c'est quelque chose qui est insignifiant pour nous, ça avait un sens, une valeur dans la parole de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, ça avait une symbolique, mais pour nous. Est-ce que nous recherchons Jésus-Christ avec des motifs purs? Est-ce que nous nous approchons de lui avec des motifs sincères? Ou c'est juste comme ça, sans valeur, on s'approche de Jésus, on cherche à le voir, mais sans plus, ça ne va pas plus loin. Et il faut noter qu'on peut être dans cet état-là, mais on peut être dans un état pire, parce que la parole de Dieu, par exemple, nous relate des personnes qui ne veulent absolument pas le voir. Et il y a cette parabole, ne cherchez pas, je l'ai notée pour vous, c'est dans Luc 14, au verset 18, c'est dans la parabole du grand souper, où il y a une invitation pour les personnes de venir. Et il nous est dit, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Et il y a quelque chose, bien sûr, de pire que de s'arrêter en chemin dans notre démarche, dans notre rencontre avec Jésus-Christ, c'est de refuser de voir Jésus-Christ. Je suis obligé d'aller voir le champ. On pourrait traduire cela, et quelquefois, ça a été notre manière de fonctionner. Maintes et maintes fois, on pourrait dire ce soir, à nous qui avons fait cette expérience avec le Seigneur, est-ce que de suite, on l'a pris avec foi, avec joie? En tout cas, je vais répondre, moi, pour ne mettre mal à l'aise personne, moi, de nombreuses fois, j'ai dit au Seigneur, excuse-moi, mais je suis obligé d'aller dans le monde. Je suis obligé d'aller m'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Excuse-moi, tu m'invites, mais là, je suis obligé de faire ceci ou cela. Et c'est quand même, ça dénote notre attachement, notre cœur par rapport aux choses de Dieu, mais plus particulièrement à Jésus-Christ. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On connaît ce verset, si vous voulez le noter, c'est dans Matthieu 12, verset 34. Qu'êtes-vous allé voir? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur ce soir? Est-ce que nous venons là en ayant une demande précise? Est-ce que nous venons avec le désir de rencontrer véritablement Jésus-Christ, de ne pas simplement le voir, de ne pas nous arrêter à ce premier stade de « je mets en place quelque chose pour voir de loin Jésus-Christ, mais sans rentrer véritablement en relation avec lui ». Est-ce que nous voulons le voir par curiosité, par obligation ? Est-ce que nous voulons voir Jésus-Christ, et on va le voir dans la parole que ça a été déjà noté, nous voulons le voir pour régler des comptes, pour le critiquer? Ou est-ce que nous voulons le voir parce que quand même nous sommes intéressés quant au prix de notre âme, quant à notre avenir, quant à la mort par exemple? On peut être intéressé pour différentes manières. En tout cas, ce qui compte, et que le message que je voudrais passer ce soir, c'est que Jésus-Christ, lui, ne désire qu'une seule chose. C'est qu'on puisse venir vers lui tel que nous sommes, pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse changer ce qui ne va pas dans notre vie, nous aider à prendre des victoires, pour que nous puissions nous rappeler que les miracles qu'il fait, c'est peut-être aussi pour nous ce soir, pour que lorsqu'il est écrit que « allez raconter à Jean », peut-être que Jésus voudrait nous dire ce soir « mais allez raconter aux frères un tel, que les morts ressuscitent, que les boîtes marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent ». C'est à nous de nous adapter et de comprendre et de faire en sorte que la valeur de Jésus-Christ, c'est la valeur de la croix, c'est la valeur de son dépouillement, c'est la valeur de ce qu'il a abandonné. Nous avons chanté ce chant « Roi serviteur ». C'est un chant que je trouve extraordinaire, rien que ces deux mots « roi serviteur », je pense que ça décrit parfaitement. C'est un roi qui a voulu être le serviteur de tous pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, mais pour que nous puissions vivre en abondance. Il y a ce texte, pour continuer dans cette pensée, de « on est juste là à chercher à voir Jésus, mais peut-être de loin, on s'est arrêté ». Parce qu'on n'avait peut-être pas des bonnes raisons, parce qu'on ne comprend pas véritablement la valeur de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole, c'est dans Luc chapitre 6, verset 7, je le lis pour vous. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison. Et la suite de ce verset, c'est « ils observaient pour voir s'il ferait une guérison », pas pour se prosterner à ses pieds, pas pour le regarder comme fils de Dieu, pas pour comprendre qu'ils sont pécheurs. Mais la suite de ce texte nous dit s'il ferait une guérison le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Afin de pouvoir l'accuser. Et c'est ça le danger dans notre vie. Si on s'approche de Jésus-Christ, qu'êtes-vous allé voir ce soir? Quelles sont les dispositions de notre cœur ce soir? Si on s'approche de Jésus-Christ mais qu'on reste au premier stade, si Jésus n'a de la valeur pour nous que à cette même valeur qu'un roseau agité par le vent, il arrivera un moment donné où on ne va pas comprendre. On va être frustré, meurtri, où on va être dans l'incompréhension des plans de Dieu pour notre vie, où on ne va pas comprendre pourquoi il se passe ceci ou cela. Si on le regarde uniquement pour l'accuser, en disant « Ah, tu vois, Jésus-Christ, je t'avais demandé ceci, je t'avais demandé cela, et c'est pas ça que tu m'as donné. » Alors voilà, on rentre dans une accusation. On rentre dans une accusation, et la fin, je l'ai noté, juste ce verset, après quoi je passerai au point suivant. Mais si on rentre dans ce domaine-là, la finalité pour nous, c'est ce qui est écrit dans ce verset, le verset 66 de l'évangile de Jean au chapitre 6, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils se retirèrent parce que la parole que Jésus donnait devenait trop dure, parce que c'était trop difficile à prendre pour soi, parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour refléter une réalité spirituelle. Et on ne peut pas prendre la moitié du message de l'évangile. On ne peut pas prendre uniquement les boiteux qui marchent sans prendre l'œuvre de la croix, sans prendre le péché, notre propre péché, ce reflet de notre existence, de notre vie, qui dit que tous les hommes ont péché, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et nous devons comprendre qu'il y a une valeur à notre vie. Il y a une valeur à notre âme, que Jésus nous aime et qu'il désire qu'on puisse aller plus loin avec lui, qu'il désire que si on se questionne, si on a à un moment donné, on s'est dit « mais je vais aller voir », que ça aille plus loin, qu'on ne s'arrête pas à ce premier stade. Le deuxième, qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? J'ai pensé à ce texte, mais je vais lire juste au début, après on pourra le lire ensemble. J'ai pensé à Hérode. À Hérode, qui est un personnage dans la parole de Dieu, qui a été plus ou moins important, qui était un homme politique, qui avait son importance dans l'époque de Jésus-Christ. Et Hérode, à un moment donné, parce que, si vous ne connaissez pas l'histoire, il a fait décapiter Jean-Baptiste, il était emprisonné parce que Jean n'était pas d'accord avec sa manière de vivre, alors il était en prison, et Hérode va le faire décapiter. Et Hérode va dire, à un moment donné, parce qu'il y a toujours un questionnement, vous savez, lorsque, bien sûr, là, c'est une mauvaise action, vous comprenez bien que les mots sont maladroits, c'est quelque chose d'horrible, de terrible, mais néanmoins, la pensée est toujours la même, c'est que quelquefois, on va pécher, quelquefois, on va faire des mauvaises actions, et on s'imagine qu'on va pouvoir vivre avec cela toute notre vie. On se dit, mais ça va, je vais les enfouir au fond de mon cœur, au fond de mon âme, et tout va bien, je vais pouvoir m'en sortir. Simplement, Hérode, lui, était travaillé. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire ce que l'on veut et penser que Dieu est extérieur à notre vie. Parce que la Bible nous dit que Dieu a les regards, ses yeux sont fixés sur tous les hommes. Dieu est sur son trône et il règne et il voit chacune de nos vies. Et un jour ou l'autre, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, il faudra qu'on rende des comptes à Dieu sur notre existence, sur notre manière de vivre, sur ce que nous avons dit, sur toutes nos paroles, sur nos pensées, sur comment nous nous sommes comportés. Et Hérode pensait que ça allait aller bien pour lui dans sa vie. Simplement, il était travaillé. Et alors que les gens, la foule, ses proches, les hommes politiques, religieux, se questionnaient sur Jésus-Christ, il va dire « mais j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci ?» en parlant de Jésus. Il pensait que c'était Jean-Baptiste qui était revenu à la vie, c'est pour vous dire le néant de son âme, sa connaissance spirituelle des choses. Il va dire, mais qui donc est celui-ci? J'entends dire de telles choses. Et la Bible rajoute, et il cherchait à le voir. Il cherchait à le voir. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir ce soir? Que sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Ce deuxième point, c'est voir ce qui frappe les yeux. Et c'est un danger dans notre vie. C'est un danger qui peut arriver par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à notre expérience de vie, notre histoire personnelle, notre éducation, de vouloir voir Jésus uniquement pour le surnaturel, le miraculeux, parce qu'il y a un questionnement profond, mais ça n'aboutit pas parce qu'il n'y a pas des sentiments purs dans notre cœur. Et c'est des choses qui peuvent nous bloquer. La Bible nous dit qu'il cherchait à le voir, mais il ne va jamais faire de démarche pour le voir. Plus tard, et on va le lire, il va se retrouver face à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Hérode qui va faire le premier pas. Ce n'est pas Hérode qui va faire en sorte d'aller voir Jésus-Christ. Et on peut avoir sans cesse le désir d'aller plus loin avec Jésus-Christ, le désir de le rencontrer, on peut avoir le désir de vaincre notre péché, on peut avoir le désir de crier à Dieu, on peut avoir le désir de demander pardon pour nos péchés, mais si on ne fait jamais le premier pas, si on n'entame pas une relation, si la foi ne vient pas se matérialiser par des actions pratiques, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hérode avait un désir qui ne s'est jamais concrétisé. Et on peut rester, encore une fois, je le répète, toute une vie avec des désirs pour Dieu qui ne vont pas se concrétiser. La Bible nous dit que si l'on cherche, on trouve. Et la Bible nous dit que si on demande, on va nous donner. Et c'est Dieu qui dit ça, c'est Jésus, c'est dans Matthieu 7, verset 7. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Hérode, s'il cherchait, il aurait trouvé. Si ce soir nous voulons chercher une solution, si ce soir nous cherchons en Jésus-Christ une réponse à notre vie, à notre manière d'être, une quelconque direction, si l'on frappe à la porte pour avoir la paix de notre cœur, je pense que nous sommes d'accord pour dire, mais que Jésus va y répondre. Jésus va dire, mais c'est moi la porte. Jésus va nous amener à comprendre que c'est par lui qu'il faut passer. Parce que, comme nous l'avons chanté, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre direction. Et on peut aller voir beaucoup de choses dans ce monde, on peut aller dans les déserts de ce monde pour chercher des solutions, pour chercher une manière d'être, une manière d'avoir un mieux-être dans notre âme, pour chercher une manière d'être allégé dans notre conscience, mais si on passe à côté de Jésus-Christ, ça sera toujours néant. Hérode avait ce désir de voir Jésus-Christ, mais c'était pour satisfaire, et on peut le lire ensemble si vous voulez bien, c'est dans Luc chapitre 23, Luc chapitre 23 verset 8, et nous lisons « Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. » Et c'est là le problème. C'est là, dans la vie d'Hérode, vous savez, on peut être un homme politique, on peut avoir des responsabilités, on peut être un ouvrier, mais qu'importe. On peut être cadre, on peut être employé, mais qu'importe pour Dieu. Dieu nous aime du même amour. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime au point qu'il ait donné son Fils. C'est ce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que nous avons un Dieu qui donne la vie, qui veut communiquer la vie, qui veut nous bénir, qui veut nous faire du bien, qui veut nous amener à comprendre qu'il a des chemins tout tracés pour nous. Et le problème dans la vie d'Hérode, c'est que rien n'a changé. Tout a stagné, tout a sclérosé. Alors quand il va voir Jésus, il a eu une grande joie. Mais ça n'a pas été une joie qu'il a fait se prosterner devant lui en disant « Mais je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que ma vie n'était pas en règle. Je reconnais que j'ai besoin de toi, que la vie vient de toi. » Ce n'est pas ça qu'il y avait dans le cœur d'Hérode. Et nous, quelquefois, on peut avoir cette même manière de fonctionner. « Seigneur Jésus, je veux une bénédiction. » Je veux une guérison, je veux un travail, je veux un conjoint, je veux ceci, je veux cela. Mais s'il n'y a pas dans notre cœur ce sentiment de reconnaissance, mais de reconnaissance de qui est Jésus-Christ, c'est un roi qui s'est fait serviteur, mais aujourd'hui, comme la Bible nous le dit, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est à la droite du Père et il règne. Nous ne pouvons pas venir vers Jésus-Christ en lui disant « Mais Seigneur, donne, donne, donne » si on ne reconnaît pas, s'il n'y a pas la repentance, le fait que nous, on se sente pécheurs, on se sente sale, parce que si on reconnaît que Jésus est le roi des rois, qu'il est mort sur la croix pour nous, il faut qu'on reconnaisse qu'on a besoin de lui pour être secouru. Et d'ailleurs, dans la vie d'Hérode, c'est ce qui va se passer. Parce qu'il était heureux de le voir. Il y a eu de la joie, mais c'était une joie du monde. Il était content parce qu'il se disait « Ah, ben je vais pouvoir avoir, excusez-moi l'expression, peut-être mon spectacle, ceci ou cela. » Et la Bible nous dit qu'il va lui adresser beaucoup de questions, mais Jésus ne va rien lui dire, ne va rien répondre. Et la conclusion dans la vie d'Hérode, c'est quelque chose de tellement dramatique. Le verset 11 de ce même chapitre nous dit « Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Il le traita avec mépris. » La Bible nous dit qu'il a été méprisé, Jésus-Christ, mais pas par Hérode. Pas que par Hérode, excusez-moi, par nous tous. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Jésus savait pleinement, comme nous l'a rappelé notre frère Antoine, il s'est dépouillé volontairement parce qu'il voulait nous amener à aller voir, à considérer, à pouvoir le rencontrer, mais ne pas nous arrêter sur des paliers, à des stades, à des niveaux différents, mais aller jusqu'au bout parce que la vie lui appartient. Et on a besoin de comprendre, on a besoin de saisir que notre âme doit être en accord, doit être approuvée de lui. J'aimerais terminer avec ce dernier point avant de conclure. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est Jésus qui rend ce témoignage au sujet de Jean, mais pour nous, je pense que ça définit exactement ce qu'est Jésus-Christ. Un prophète, oui, mais plus qu'un prophète, plus qu'un homme, le Fils de Dieu, plus qu'un sacrificateur, le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu que nous voulons voir ce soir. C'est Jésus-Christ. Nous voulons avoir une relation avec Jésus. Nous ne voulons pas avoir une relation avec les ADD, avec un mouvement, avec une dénomination. Nous voulons avoir une relation, une intimité avec Jésus-Christ. Jésus va reprendre dans d'autres circonstances cette même tournure de phrase lorsqu'il va parler de Jonas en disant « Mais vous voyez, vous avez... » Et Jonas qui était un prophète, en disant « Mais vous vous rappelez, ils ont écouté Jonas, Ninive, se sont repentis à la prédication de Jonas. Et ici, il y a plus que Jonas. » Il va reprendre cet exemple en disant « Mais la reine du Midi se lèvera parce qu'elle a vu la sagesse de Salomon, parce qu'elle a vu de ses yeux, elle a été touchée, elle a été bouleversée, parce qu'elle a compris que ça ne venait que de Dieu. » Et il va dire « Mais ici, il y a plus que Salomon. » Et on pourrait multiplier les exemples ce soir. En parlant des prophètes, des hommes de Dieu, on pourrait multiplier les exemples par ce qu'il s'est passé dans le monde. par les miracles qui ont été accomplis par les disciples, par des prophètes, et on continue à dire « mais il y a plus que ces gens-là, il y aura toujours plus, parce que Jésus-Christ, si nous le considérons que comme un prophète, nous passons à côté du plan de Dieu. C'est le Fils de Dieu. » C'est le Fils de Dieu. Et il y a une femme samaritaine qui a compris, qui est rentrée en relation avec Jésus-Christ. On ne peut pas tout lire, ça prendrait trop de temps. Mais c'est dans Jean chapitre 4. Et alors que cette femme est là, cette femme brisée, je ne vais pas revenir sur le contexte, Jésus va parler avec elle. Et elle va comprendre que c'est plus qu'un prophète. Elle va lui dire « mais tu es prophète ». Elle va comprendre qu'il y avait quelque chose de particulier. Mais après, voilà la proclamation qu'elle va faire, et c'est cette proclamation que nous voulons saisir ce soir. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ, ne serait-ce point l'envoyé de Dieu, ne serait-ce point le Messie, ne serait-ce point le Fils de Dieu. Venez voir. » Qu'êtes-vous donc allé voir ce soir? Qu'est-ce que nous attendons de Jésus-Christ? Qu'on soit converti depuis des années, des mois, des semaines, qu'on soit en train de batailler dans notre âme, qu'on se pose des questions, qu'on soit en train d'expérimenter. Qu'est-ce que nous sommes venus voir? Qu'est-ce que nous attendons de Jésus-Christ? Est-ce que nous allons nous arrêter à attendre de lui uniquement ce qui va frapper nos yeux en habit de roi? Est-ce que nous allons simplement le considérer comme quelque chose de secondaire dans notre vie? Ou nous allons pouvoir un jour, et le plus tôt, c'est le mieux, évidemment, pouvoir proclamer comme cette femme samaritaine, mais il m'a dit, il a bouleversé ma vie, il a bouleversé mon cœur. Ne serait-ce pas, autrement dit, mais est-ce que c'est pas le Christ, l'envoyé de Dieu pour ma vie, loin de Dieu pour mon existence? Est-ce que ce ne serait pas celui qui est mort à la croix pour moi, pour que je puisse avoir le pardon de mes péchés et la vie? Et j'aime le répéter, j'aime le dire, que l'œuvre de la croix, ce n'est pas uniquement pour notre salut, mais c'est pour tous les jours de notre vie. Je terminerai en vous citant ce texte. Qu'êtes-vous donc allé voir? Et je pense que l'idéal quand même, c'est d'aller voir, de chercher à voir pour trouver, pour arriver à une finalité. Ne pas rester uniquement à distance, parce que voir, ça sous-entend quand même qu'il y a une certaine distance, une certaine méfiance. On reste sur nos gardes, mais je pense que le désir de Jésus-Christ ce soir, c'est qu'il n'y ait plus cette distance, il y ait cette relation. Son amour veut se manifester dans notre vie, pour les nôtres, pour nous, mais pour notre famille, pour ceux qui nous entourent. Dans la parole de Dieu, c'est dans Jean chapitre 12, je le lis pour vous, nous lisons quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Qu'êtes-vous donc allé voir ce soir ? Demain, après-demain, qu'est-ce qu'il y aura dans notre cœur? Je pense qu'il y a là une piste évidente. Bien sûr, c'est pour rajouter à la pensée, pour étayer par des textes bibliques, parce que des hommes ont fait cette expérience, des femmes ont fait cette expérience qui a voyagé, qui a traversé les siècles, qui est encore une expérience possible. Nous voudrions voir Jésus. Jésus à l'œuvre dans notre vie, Jésus se manifester, Jésus nous pardonner, Jésus guérir, Jésus venir bénir notre foyer alors qu'il y a des difficultés. Et je terminerai là vraiment avec ce texte, on pourrait le lire ensemble, c'est dans Jean chapitre 1er, on va lire quelques versets, à partir du verset 35, Jean chapitre 1er, verset 35, qu'êtes-vous donc allé voir? Je pense que l'idéal, c'est de voir pour trouver celui qui peut répondre à nos questions, donner un sens à notre vie, venir nous donner du repos. Nous lisons, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ?» Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ?»« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ » et il le conduisit vers Jésus. Il y a plusieurs étapes, on aurait pu s'arrêter longuement sur ce passage, mais ce qui est important pour nous ce soir, c'est qu'il y a un moment où on va dans le monde, on va de par différents endroits, et ça peut être, ce n'est pas seulement physique, mais vous comprenez que c'est aussi spirituel, c'est dans nos pensées. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Où est-ce que nous allons ? Dans quelle direction est-ce que nous allons ? Et ce texte répond d'une manière, je pense, assez claire. Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui va être sacrifié par Dieu pour nous. Et on voit que ces hommes vont le suivre. Ils vont vouloir aller avec lui. Ils vont vouloir rester auprès de lui. Et c'est ce que nous devons faire, expérimenter dans notre vie, pour que nous puissions dire, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé le chemin, la vérité et la vie, nous avons trouvé la paix pour notre âme, le repos et l'assurance que nous sommes sauvés pour l'éternité, parce qu'un jour, Jésus-Christ, selon l'enseignement de la parole de Dieu, va revenir pour nous chercher. Et lorsque nous lisons la parole, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, je pense que nous devons être prêts à ce jour, pour le jour du retour du Seigneur, afin que nous soyons pris avec lui. Amen. On prie le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous parles jour après jour, instant après instant. Ton désir, c'est que nous puissions venir vers toi, ne pas seulement te voir au loin, ne pas nous arrêter selon nos conceptions, nos idées, nos représentations, selon notre éducation, notre morale. Nous voulons laisser tout cela de côté ce soir, mon Dieu. Aide-nous à nous approcher. Aide-nous à aller voir toi, Jésus-Christ, à venir te voir à la croix, à venir te voir et nous prosterner devant toi pour obtenir le pardon de nos péchés, parce que nous voulons te reconnaître comme fils de Dieu, comme un roi serviteur. Merci pour tout ce que tu es capable de faire. Merci de guérir ce soir, de guérir les cœurs, de penser. Peut-être il y a des blessures, peut-être il y a là des amis qui sont marqués comme au fer rouge. Mon Dieu, tu es capable de bénir, de guérir, de bénir nos familles, de bénir, Seigneur, ces personnes que nous côtoyons. Toi seul es capable de le faire. Nous voulons pouvoir tous dire un jour, nous avons trouvé le Messie et nous voulons te trouver. Et nous savons, Jésus, que tu te laisses trouver. Si nous cherchons d'un cœur sincère, tu te laisses trouver. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait, pour ton amour. Merci Jésus pour la croix. Oui mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.